écoutez Radio Campus Lille, il est 8h.
Au cœur du centre-ville, je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel.
Nous sommes le premier lundi du mois, il est 8h sur les ondes de Radio Campus 106,6 et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de tous essentiels, l'émission du revenu de base avec Virginie. Bonjour Virginie.
Salut Max, comment tu vas?
Mais ça va bien et toi?
Oui, ça va très bien. Écoute, je me sens d'humeur internationale aujourd'hui.
Oula, tu veux dire qu'on va passer les frontières?
Oui, oui, une frontière, alors pour nous pas très loin, pour nos auditeurs je ne sais pas, la frontière belge.
Ah bah oui, c'est pas super loin.
C'est pas super loin, mais bon, il y a quand même beaucoup de Français qui la franchissent régulièrement. Mais cette fois-ci, on va recevoir Roland du Châtelet. Bonjour Roland.
Bonjour.
Bienvenue chez nous, bienvenue en France. Bienvenue en Europe, on va beaucoup parler d'Europe avec toi. Évidemment de revenus de base, et on va même parler de BIG, de Basic Income Guarantee. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit en anglais?
Oui, bien sûr.
Ouais, super. J'ai validé mon anglais. Bon, avec toi, on parlera français. Merci beaucoup de jouer le jeu. Je te présente en quelques mots et je te pose la question rituelle. Donc, tu as d'abord une formation d'ingénieur et d'économiste. Tu es entrepreneur aussi, surtout connu pour ça. Et tu as lancé en Belgique, du coup, le parti qui s'appelle Vivant et où tu as notamment défendu, en tant que parlementaire aussi, le BIG, le Basic Income Guarantee. Donc voilà, ça c'est ce qui nous a fait nous connaître un peu grâce au hasard de la vie. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et donc je vais te poser la question rituelle qui permet de rappeler un petit peu de quoi on parle ici. Donc derrière le mot générique de revenu de base, imaginez à partir de demain, tous les mois, vous recevez suffisamment pour vivre. Ça tombe sur votre compte, à votre nom, il n'y a rien à faire et c'est jusqu'à votre mort. Et vous en faites ce que vous voulez. Et c'est inconditionnel, donc que vous travaillez pas, vous l'avez. Donc ça, c'est la définition de base internationale d'un basic income. Et c'est cumulable avec d'autres revenus. Donc là, on va aller explorer une version belge que tu as portée au moins depuis 25 ans. Bah, tu dis, c'est ça?
Oui, oui.
Et alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir ton avis d'entrepreneur. Donc, j'imagine que tu t'es projeté, s'il y avait un revenu de base, toi, concrètement, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que ça changerait pour toi, à travers aussi, évidemment, tes salariés qui auraient un revenu de base aussi?
Ben, je crois que pour toute la société, ça changerait beaucoup. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes géniales, en fait, et qui avaient quand même des problèmes à nouer les deux bouts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un statut difficile, par exemple, des artistes, typiquement, et avec des revenus irréguliers, hein, et peut-être même quelquefois pendant de longues périodes, quasiment pas de revenus. Et pour, je crois que comme acquis pour la société où on a une sécurité de revenus, quoi qu'il en aille, quoi qu'il se passe, c'est quelque chose de très fondamental qui, en fait, bon, les germes de cela ont été semés juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a créé la sécurité sociale au niveau de l'État, aussi bien en France, en Belgique, qu'en Allemagne, etc. Donc c'est d'ailleurs ce qui unit les pays de l'Europe de l'Ouest. Hein. Donc c'est pas un accident que ces pays, maintenant, se disent « on a à défendre quelque chose de... » de vraiment très très fort, c'est la sécurité sociale. Et en fait, le revenu de base, c'est une espèce de rationalisation de ce qui a été inventé maintenant il y a quand même pas mal de temps, 75 ans, pour donner à chacun une sécurité de revenus pendant sa vie. Et c'est ça, c'est donner une sécurité de pouvoir avoir un revenu pendant sa vie. Et ce qu'on fait en sus, travailler, par exemple, ça vient en principe en plus aussi. Pourquoi? Parce que comme ça, les gens qui travaillent beaucoup gagnent plus que ceux qui travaillent peu, etc. C'est pas contradictoire. Mmh. Et ce qui est intéressant, en fait, dans l'historique du revenu de base, c'est que d'une part, il y a des pays qui depuis longtemps ont un revenu de base, comme Alaska, par exemple. C'est un État des États-Unis.
Oui,
maintenant,
oui.
Ils ne l'ont plus parce que ça a été largement supprimé. Mais il l'avait aussi parce que là aussi, c'était pas évident parce qu'il fait pas toujours très chaud là-bas, hein. Donc, quelquefois, c'est pas évident aussi de travailler avec un dégel de moins 30 degrés. Et là, ça existait aussi comme une espèce de garantie universelle. Maintenant, il y a d'autres pays qui l'ont aussi déjà fort longtemps, surtout, par exemple, Macao. Macao, c'est une ex-colonie portugaise qui, depuis pas mal de temps, fait partie de la Chine, eux, ils ont aussi depuis longtemps un système de revenu de base où là, en fait, le montant est distribué chaque année, c'est à peu près l'équivalent d'un revenu d'un mois. Voilà.
D'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent, hein, vous pouvez retrouver les expérimentations sur le site revenudebase.info. Il y a une carte des expérimentations accessible dès la première page. Donc, effectivement, pour retrouver les détails de ce, notamment celle que tu viens de citer. Mais alors, j'ai une question un petit peu plus précise à te poser parce que, en général, quand on parle de revenu de base, les gens disent que les gens, c'est-à-dire les autres gens, aurait simplement envie de ne pas travailler, tu vois. Et donc, un entrepreneur tel que toi, comment est-ce que tu envisages que tes salariés reçoivent un revenu de base? Est-ce que t'as pas peur que, justement, ils veulent plus travailler pour toi?
Mais la plupart des gens aiment, en tout cas, s'occuper. Et donc, le travail... en plus, le travail, ça peut être un plaisir aussi. Beaucoup de gens travaillent par plaisir. Moi, j'en suis un exemple. Mais beaucoup d'autres aussi travaillent par plaisir. Et faire une grosse différence entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré, c'est un peu dépassé également. D'ailleurs, il y a un excellent exemple aussi par rapport à ça. Quand on a créé la sécurité sociale en 1950, disons, hein, à ce moment-là, il y avait beaucoup de femmes au foyer encore, hein, parce qu'il y avait beaucoup plus d'enfants aussi que maintenant, et donc il y avait de gros ménages qu'il fallait soigner, et typiquement, au début, les femmes qui avaient travaillé fortement, évidemment, pour faire en sorte que leur fils et leur fille deviennent des adultes heureux, hein, il n'y avait typiquement pas de pension au début. Parce que la pension officielle, à ce temps-là, c'était réservée à ceux qui avaient travaillé dans un contexte typiquement de travailleurs ou d'employés, en fait. Et donc, à un moment donné, on a élargi cela. Et en fait, jusqu'à maintenant, quand on étudie la législation sur la sécurité sociale dans la plupart des pays en Europe, il y a toujours beaucoup d'exemples où, théoriquement, certaines personnes ne peuvent pas avoir de revenus officiels. Enfin, c'est-à-dire par la loi où on a travaillé et puis on reçoit, par exemple, une indemnité de chômage, etc. En pratique, ça n'existe quasiment plus parce que maintenant, tout le monde reçoit quelque chose quand ils n'ont qu'à quand ils n'ont pas suffisamment de ressources, alors ils vont quelque part, soit à tel ou tel ministère ou une association qui s'occupe d'eux, et puis finalement, ils arrivent quand même avec beaucoup de complications administratives, beaucoup de travail de personnes administratives qui sont quand même payées par nous aussi. Ils arrivent à avoir des revenus. Le système actuel est en fait aussi un système où on veut donner à chacun un revenu. Le problème du système actuel, c'est qu'il est excessivement compliqué, qu'il y a beaucoup d'abus, hein, et que ce n'est pas un système égalitaire. Hein. Donc, si on parle des principes de la Révolution française, la sécurité sociale actuelle n'est pas égalitaire, puisqu'elle n'est pas acquise automatiquement, et en plus, c'est excessivement compliqué. quelquefois d'avoir justement un revenu. Et si on insiste beaucoup, si on connaît des gens, ben là on arrive à avoir le revenu qu'il faut. Mais si on n'est pas tellement actif à ce niveau-là, on n'a pas ce revenu-là. C'est pour ça que justement les artistes, typiquement, quand moi j'ai créé le parti il y a maintenant plus de 25 ans, hein, il y a à peu près 30 ans, ben, les artistes, ils sont totalement preneurs tout de suite. Hein.
Mais oui, oui, oui. Alors, en France, on a quelques chiffres hein, par rapport à ce que tu évoques. Effectivement, il y a un tiers des personnes qui devraient avoir droit aux minima sociaux et qui ne le demandent même pas, soit parce que c'est très compliqué, soit parce qu'il y a des erreurs de l'administration qui ne sont jamais reconnues, soit par dignité aussi. Et deux tiers des personnes qui travaillent, mais pas assez, et qui auraient droit normalement à un soutien aussi et qui ne le demandent pas. Donc, ils ne l'ont pas. et donc, voilà ce qu'on appelle le taux de non-recours, c'est assez effarant. Et il y a aussi la question par rapport à tout ce que tu évoques, donc non seulement du temps, de l'énergie que le, entre guillemets, bénéficiaire doit consacrer à cette recherche du minimum vital, mais il y a aussi, en plus, tout un système de morale, moralisateur d'humiliation, etc. Mais du coup, ce que j'entends, c'est que toi, en tant qu'entrepreneur, ça t'effraie pas que tes salariés aient suffisamment pour vivre et une base hors de leur emploi. Tu penses qu'ils continueraient à travailler? Parce que du coup, ça veut dire, pour que le travail soit quand même un plaisir et une stratégie pour nourrir des besoins de, je sais pas, d'épanouissement, de rencontres, de découvertes, pour se sentir utile aussi. Ça veut dire que toi, en tant qu'entrepreneur, tu t'engages à ce que les conditions de travail soient au moins correctes, sinon enviables, non?
Oui, absolument. Mais bon, ça, c'est depuis déjà pas mal que les entrepreneurs acceptent de pas mal de choses pour que ça aille bien. Mais c'est vrai que tout ça, ça n'était pas le cas il y a, disons, 100 ans. Mais maintenant, depuis au moins très longtemps, les entrepreneurs, typiquement, il y a peut-être toujours des exceptions, mais en général, il y en a fort peu encore qui acceptent évidemment de bien payer les employés, etc. Donc ça, c'est un acquis. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de dire, Virginie, c'est que tu as parlé de dignité. Hein? La dignité qui empêche certaines personnes d'aller demander un revenu quand ils n'ont pas assez pour manger, pour se chauffer, pour aller. Et il y a beaucoup plus de personnes dans ce cas que l'on ne pense. Hein. Donc, il y en a évidemment qui ont une grande facilité à aller demander quelque chose, mais il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, qui avant avaient un peu d'argent, qui sont dans les villages, ont une réputation d'être quand même qui avaient avant les moyens, eh ben, ces personnes-là, souvent, préfèrent avoir froid pendant l'hiver, c'est très froid même, acceptent de ne pas aller au restaurant de temps en temps, une fois par mois ou même une fois par trimestre. Pourquoi? Parce qu'elles sont gênées d'aller demander aussi un revenu. Et c'est pour ça que, justement, le revenu de base est tellement fort comme principe, c'est qu'il ne faut pas demander. Il ne faut pas aller demander cela. Tout le monde a droit. Donc, c'est ça espère que de cette façon-là, il n'y a pas de problème au niveau de la dignité, puisque chacun a automatiquement droit. Et c'est pour ça qu'il y a quelquefois aussi des discussions. Oui, mais celui-ci, il ne devrait pas voir parce qu'il a déjà beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas si toi, tu connais dans ce que tes amis et tes connaissances possèdent, ne possèdent pas et quelles sont les dettes qu'ils ont. Je pense que peu de gens le savent. On peut peut-être.
C'est un peu tabou encore.
Mais le savoir, on ne le sait pas. Et ce serait pas bon non plus de le savoir et que ce soit connu pour chacun, je pense, au niveau justement du bien-être individuel et de bon. Mais donc voilà, je crois qu'un des aspects clés, c'est la dignité. Un autre aspect clé du revenu de base, c'est l'aspect liberté. Ça me dit quelque chose, hein.
Mais oui.
Liberté, égalité, fraternité, liberté. On serait étonné, mais quand on a un revenu de base, imaginons qu'il y ait quatre artistes, hein, et ils s'entendent bien, etc. et ils ont, par exemple, 1 000 euros par mois, chacun de revenus de base. Eh ben, ils essayent d'aller vivre dans une petite ferme à la campagne. Déjà, à 4, ils ont 4 000 euros par mois. Donc, ça leur permet de vivre. Et ils peuvent, à ce moment-là, devenir très, très créatifs. Ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas le problème quotidien de trouver à manger, etc. Donc, ils ne vont pas aller aussi au niveau de la criminalité. Ça va certainement aider aussi beaucoup de personnes. Donc, moi, je pense que c'est totalement génial, le revenu de base. Mmh. Et c'est un peu curieux, et ça, c'est l'autre question. C'est curieux que le monde politique n'est pas très chaud pour le revenu de base. On peut se demander pourquoi. Parce que c'est en fait la rationalisation de la sécurité sociale. Et pourtant, alors de tout de suite, avancer dans cette voie-là, le monde politique n'avance pas. Alors, explique-moi, Virginie, pourquoi.
Alors, je pourrais faire en quelques mots selon les contacts que au Mouvement français pour le revenu de base on a eu avec certains politiques. Alors il y a des politiques de droite comme de gauche qui soutiennent l'idée et du coup un peu comme tu disais ce levier vers nos valeurs de liberté, égalité, fraternité. Mais c'est pas eux qui sont au pouvoir pour l'instant. parce que voilà, on va trouver alors des personnes soit vers très très à gauche qui vont pousser l'idée jusqu'à un niveau révolutionnaire de anticapitaliste, des personnes on va dire plutôt centre gauche qui veulent une émancipation par rapport au travail. Donc, alors exactement dans ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire le travail, la valeur travail qui n'est pas réduite à la valeur salariale, donc le travail général, voilà, dans son acceptation la plus large. Donc il y a une partie des républicains et des jeunes républicains notamment qui défendent une version de revenu de base qui pour nous est la minimale, puisque après c'est des versions régressives qui consistent à simplifier les aides et au moins qu'il n'y ait pas de non-recours, au moins que chacun ait suffisamment pour survivre, voilà. Donc, de gauche comme de droite, on trouve des personnes qui sont intéressées, mais hélas, pas parmi les ultra-libéraux, évidemment pas parmi l'extrême droite, ce sont les deux versants politiques qui soit ne s'y intéressent pas du tout et même refusent l'idée, ou alors la détournent pour des fins de régression sociale, comme M. Macron a pu le faire avec le revenu universel d'autonomie. Ça, c'est ce qu'on peut tirer des leçons en France, en tout cas, pour l'instant. J'avais envie de rebondir vite fait pour clôturer l'interpellation plus entrepreneuriale. Je te remercie beaucoup de tout ce que tu as pu partager parce que déjà ça peut permettre de réconcilier les salariés des patrons entre guillemets, parce que voilà, il y a certains patrons comme toi qui défendent l'idée et pour des valeurs communes. J'ai envie de citer aussi Götz Werner qui est aussi un entrepreneur un peu comme toi qui est parti du bas de l'échelle et qui a terminé sa vie en étant entrepreneur de plusieurs magasins, toute une chaîne de magasins de bricolage d'ailleurs. Bon, maintenant il est décédé, mais il a beaucoup soutenu l'idée en Allemagne et insisté aussi sur le fait que les entrepreneurs en général soutiennent beaucoup aussi l'idée. Tu as parlé des artistes, mais pour les entrepreneurs c'est aussi donc notamment le centre des jeunes dirigeants en France qui soutient cette idée-là depuis des années parce que ben voilà, un revenu de base permettrait de sécuriser la prise de risque que constitue lancer son entreprise et quelquefois même aux dépens de se payer soi-même, etc. Donc voilà, tous les petits commerçants, les artisans, etc. Pourraient lancer leur propre entreprise en étant à minima sécurisés et sans risquer d'hypothéquer leur famille, par exemple, ou leur avenir tout simplement. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai envie de t'orienter maintenant par rapport à ce que tu as déjà abordé, c'est donc les attentes sociétales de la version que porte le parti Vivant. Donc tu as déjà beaucoup parlé, on a évoqué la valeur travail, t'as émis quelques, tu as commis quelques articles sur le site de Basic Income Earth Network, donc voilà, que je auquel je renverrai nos auditeurs à la fin de l'émission, mais tu parles notamment d'une sorte de religion du travail, que les économistes qui sont aujourd'hui à la manette un peu partout dans le monde, en fait, partent du principe qu'il n'y a que le travail qui soit créateur de richesse, et entendez dans travail, non pas la large acceptation qu'on a développée là entre nous, mais plutôt voilà, un travail subordonné, salarié ou indépendant, mais subordonné au marché dans ce cas-là. Et du coup, j'entends le lien que tu fais avec la sécurité sociale. Et quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que le big finalement répondait à la question de comment peut-on sauvegarder la sécurité sociale dans le monde de demain. Est-ce que tu peux développer aussi par rapport aussi une autre entrée qui te touche particulièrement en tant qu'entrepreneur, c'est la numérisation finalement. Le fait qu'il y a un certain nombre d'emplois qui a priori, dont déjà on peut se passer aujourd'hui, et qui a priori dans un avenir proche ou à moyen terme risque de disparaître parce que potentiellement remplacé par des machines ou des logiciels qui n'ont pas. Alors je mets de côté l'impact écologique dont on a déjà parlé dans cette émission par ailleurs, mais en dehors de ça, comment est-ce que tu vois l'évolution du monde du travail avec un revenu de base dans ce cadre de numérisation, d'automatisation?
Il y a ce que la plupart des politiques ne savent pas, et ils ne sont pas conscients, mais la plupart de la population, même en France, n'est pas conscient non plus du fait que le travail rémunéré par heure ou par jour, par mois, en fait, comme on le connaît aujourd'hui, celui qui a été en fait, qu'on a développé depuis un certain temps, quand on considère la totalité de l'évolution du monde, le monde civilisé, où l'être humain a commencé à être un peu un être humain qui a commencé à parler, qui s'est organisé un petit peu, ben ça c'est il y a 12 000 ans, donc ça fait un bail. Quand on prend les 12 000 ans de développement de l'être humain jusqu'à présent, et si on compare, en fait, l'existence du travail rémunéré, le travail par heure ou le travail par mois, etc., parce qu'avant, c'était quand même plus par pièce qu'on travaillait, ça fait qu'il y a 24 heures de développement de l'être humain jusqu'à présent. Ah ben, à ce moment-là, le travail payé par heure ou le travail typiquement rémunéré, comme on le connaît, le concept de travail payé, c'est un concept qui existe depuis 12 minutes.
C'est pas beaucoup.
Donc, c'est pas très longtemps.
Vu comme ça.
Et donc, voilà. Et donc, ce serait fort étonnant que ça pourrait encore continuer à exister dans 100 ans ou 200 ans, par exemple. Et donc, c'est un incident dans l'histoire de l'humanité, la création du travail payé par heure ou par mois, etc. Parce qu'avant, donc effectivement, les ouvriers étaient payés à la pièce. Mmh. Et donc, un autre exemple un peu plus ancien qui existe aussi, une certaine forme de travail rémunéré, parce qu'en fait aussi des paysans, longtemps, ils travaillaient, ils devaient donner une part de leur production à celui qui avait la propriété de leur terrain. Donc c'était un système qui n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Et donc je crois que quand on regarde vers l'avenir, bon, comme je vous avais dit, je m'occupe beaucoup de l'aspect technique évidemment. Et dans une de nos usines, et dans la plupart des usines maintenant, on remplace les êtres humains par des robots France. Donc, pour donner un exemple, on a une usine ici tout près où on avait il y a 2 ans encore 180 personnes. Maintenant, on fait autant de travail avec moins de 50 personnes, mais avec à peu près 150 robots en plus qu'on avait déjà. Déjà, il y a 2 ans, on avait pas mal de robots déjà, mais maintenant, on en a beaucoup plus encore. Et le travail est fort bien fait, etc. pareil au niveau de l'administration. On ne peut pas sous-estimer qu'au niveau de l'administration, tout va fortement évoluer à ce niveau-là. Et beaucoup de travail qu'on faisait avant sera fait automatiquement par de l'informatique, donc des robots techniques aussi. De toute façon, parler, un robot ne doit pas nécessairement avoir des membres comme un robot qui travaille dans une usine. Il y a aussi des robots qui parlent, par exemple, à la place d'êtres humains.
Oui, avec l'IA.
Et ça, c'est une évolution relativement nouvelle qui va fortement encore augmenter. Et il y aura un moment où, en fait, le travail humain deviendra beaucoup moins important qu'il ne l'a été déjà aujourd'hui. Il est beaucoup moins important qu'avant, parce que quand on regarde ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut de la France, par exemple, de la Belgique ou des États-Unis, avant, la production et la création de valeur, c'était essentiellement fait par l'industrie, des gens qui faisaient réellement quelque chose. Et c'est comme ça qu'en fait le concept de produit intérieur brut a été conçu. C'était le travail des ouvriers dans des usines, etc. D'ailleurs, et politique, dans tous les pays, quand ils parlent du travail et quand on montre à la télé le travail, ils montrent toujours des usines.
Oui, c'est vrai.
Ils ne montrent pas quelqu'un qui, dans un cabinet ministériel, s'occupe de courrier, par exemple. Et ça c'est fortement ancré dans la mentalité aussi des syndicats. Pour eux, le travail, c'est surtout dans des usines. Mais en réalité, en France, par exemple, le travail dans les usines, c'est moins de 20% du travail aujourd'hui.
Mais oui.
Alors c'est... En Belgique, c'est pareil.
Oui.
Donc le travail dans les usines qui réellement produisent des choses, c'est devenu relativement, c'est pas significatif. Au niveau de l'agriculture, pareil, tout est automatisé également. Alors il faut finalement se dire, ok, que se passe-t-il alors avec eux? Où est-il ce travail? Eh bien, il est surtout dans les services. Des services comme des assurances, beaucoup d'avocats évidemment vendent leurs services, mais aussi dans les services publics, l'enseignement, les soins de santé, tout ça, ce sont des services nouveaux, de gros comparés il y a 100 ans, quasiment nouveaux quand même, et donc ceux-là aussi, et ça c'est justement l'attitude qu'il faut avoir. Moi je vous prédis que aussi bien l'enseignement que les soins de santé vont très rapidement, fondamentalement évoluer vers une automatisation relativement poussée. Pourquoi? Il y a déjà, par exemple, en Chine, des médecins qui ne sont pas des médecins, mais ce sont des robots. Donc, vous avez un problème médical, là, vous appelez typiquement par Internet, un appel téléphonique, vous expliquez votre situation, et là, on va vous demander, vous avez quel problème, etc. Et le robot, qui est l'équivalent d'un médecin, donne son avis sur ce que vous avez et peut vous conseiller. À l'avenir, ce sera beaucoup plus, ça commence déjà maintenant. Nous, d'ailleurs, une de nos usines, nos sociétés, on vend ce genre de produits déjà. Ce sont des capteurs, par exemple, des capteurs de température dans votre téléphone mobile.
Des consultations en ligne avec des instruments connectés, oui. Il faudra sans doute que nous population, on y mette un peu notre nez pour que ces évolutions se fassent de façon démocratique et liées à nos réalités. Et en tout cas, ce que j'entends, c'est que dans ce que tu dis, on devrait se réjouir de cette baisse du travail nécessaire, parce que justement ça libère l'humain du travail, et c'est un peu, je pense en tout cas, quand même une évolution positive depuis la création de l'humanité, depuis nos ancêtres, j'imagine, et on devrait s'en réjouir parce que c'est du temps libéré pour profiter de la vie, qui est quand même une merveille assez extraordinaire, pour prendre soin de soi, des autres, et pour vivre de la créativité activité, etc. Mais tant que le salaire, le revenu est lié à une partie de travail, j'entends ici dans le sens salarié, subordonné, eh ben, on peut pas être pour des licenciements parce que ça met des gens à la rue et dans la précarité dont tu as parlé tout à l'heure. Ce que je vous propose là, c'est une petite pause musicale parce qu'on a Max qui frétille à côté et puis après on revient vers vous pour connaître plus précisément la version big dans ses rouages.
Et comme pause musicale, je te propose un grand big up à Renaud Bistan, parce que c'est quand même sans doute celui qu'on passe le plus souvent.
Oui, hein? Alors, on va l'inviter un jour, on va l'inviter.
C'est ça, avec les chômeurs de mon quartier, pour bah oui, ça va tellement avec le revenu de base, c'est vrai, tout ça.
Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés pour leur bonne humeur et leur disponibilité. Leur présence bienveillante fait qu'autour d'eux tout s'enchante comme un repère important qu'on peut trouver tout le temps. Comme un service public, le chômeur te renseigne quand tu cherches une rue sur un plan et que t'es pressé. Tu comprends tout de suite que tu frappes à la bonne enseigne. Il te donne de son temps sans aucune arrière-pensée. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés, car ils répondent présents à chaque déménagement. Ta voiture a un souci et ils plongent dans le cambouis. T'as une panne informatique et voilà l'esprit pratique. Ils sont tellement compétents dans de multiples domaines que de n'en choisir qu'un, ce serait du gâchis. Faire bêtement la même chose toute la semaine, alors qu'ils aident chacun à être mieux dans sa vie. Les chômeurs de mon quartier ont chacun 12 000 métiers. Commenter la météo, t'aider à faire ton créneau, ça ne paraît pas grand chose, mais dans nos villes moroses, d'égoïstes et de nerveux, ben ils mettent du ciel bleu. Quand j'ai besoin de parler autour d'une tasse de café, où est le psy bénévole qui m'écoutera des heures? Ce sont les copains chômeurs toujours prêts à se sacrifier. C'est bien simple maintenant, je les appelle docteurs. Mais il y en a des traîtres, des chômeurs malhonnêtes, et qui du jour au lendemain se remettent au turbin. Par une journée un peu triste où tu passes à l'improviste pour mater un DVD, le chômeur t'a planté. Il a rejoint la cohorte des gens stressés par la vie, piqué par le démon de la reconnaissance sociale. D'un air pincé, il te dira, on peut se voir samedi, que c'est triste de voir un copain trouver du travail.
Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6 pour l'émission Tous Essentiels, l'émission du revenu de base.
Et oui, on est avec Roland. Roland qui a monté, qui a lancé un parti en Belgique qui s'appelle Vivant et qui porte une version de revenu de base qu'on appelle le BIE. Donc là, si vous venez de nous rejoindre, on va demander à Roland comment est construite la version qu'il envisage, en sachant qu'il nous a déjà contextualisé que ce BIG pourrait sauvegarder la sécurité sociale de demain et du coup par là même, puisque là on vise le niveau européen, n'ayons pas peur d'être ambitieux, de sauvegarder l'Europe, les liens Europe et une Europe sociale, pour une fois. Donc Roland, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vois concrètement, pour prouver un peu que c'est très réaliste et réalisable comme version, le financement, la structure de l'installation de ce BIG?
Voilà, donc ce serait un système où le revenu de base mensuel serait par exemple 1 000 euros ou peut-être un peu plus déjà, hein, parce qu'avec les temps qui courent, et les gens qui travaillent reçoivent alors de l'argent en plus. Maintenant, imaginons que quelqu'un gagne maintenant déjà 2 500 euros et qu'il reçoit un revenu de base de 1 000 euros au jour J où cela est introduit, à ce moment-là, en fait, il reçoit au total le même montant, mais sur sa fiche de paye, il y aura marqué revenu de base 1 000 euros et revenu du travail 1 500 euros. Ça, c'est le système au moment de la transition. Et là, c'est un système qui permet aussi d'avoir aucun problème de financement, puisqu'en fait, pour les personnes qui ont la transition, il n'y a pas de problème quel qu'il soit, parce qu'en fait, c'est une transition excessivement simple. Maintenant, quand on voit les 1 000 euros que l'on donne comme revenu de base à chaque Français à ce moment-là, ça peut éventuellement être différencié par rapport aux enfants et les pensionnés en plus, évidemment. Mais donc, typiquement, comme moyenne, disons, 1 000 euros. Et quand on calcule ce que ça coûte pour la France, et puis on regarde ce que ça coûte aujourd'hui, la sécurité sociale, eh ben c'est moins.
D'accord.
C'est moins. Et donc, mais il faut évidemment aussi certains cas dans la sécurité sociale, par exemple les handicapés. Il y a d'autres cas aussi où il faut avoir des montants supérieurs encore. Et là, il faut une assiette encore en dehors du revenu de base pour les cas où il faut payer plus. Mais il y a aussi des cas en France qui ont moins que 1 000 euros aujourd'hui par mois.
Bien sûr.
Et par contre, le gros avantage du système, c'est que pour, mettons, 80% de la population, il faut plus de système de voir s'ils ont le droit, s'ils n'ont pas le droit, etc. Donc, c'est une simplification du système de la sécurité sociale. Alors, ça, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il est permis de travailler quand on a le revenu de base. Alors qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, si on a une allocation quelconque, c'est une interdiction de travailler.
Oui.
Donc, c'est une interdiction d'épanouissement personnel, finalement, parce que la plupart des gens aiment travailler. De ceux que je connais, ils aiment travailler parce que c'est un contact social et puis ils peuvent parler quand ils arrivent à la maison, ils peuvent parler de leur travail, discuter,
etc.
Donc, le travail c'est bien, mais là, on change le système à ce niveau-là. L'autre aspect, c'est le financement. Donc, en principe, au niveau financement, il n'y a pas de souci puisque le système actuel est plus cher puisqu'il est plus compliqué que le système du revenu de base. En tout cas, le système actuel est aussi cher. Pourquoi ? Parce qu'il est aussi, dans certains cas, inefficace. Et c'est que le système actuel aussi par rapport à l'emploi, j'ai dit tout à l'heure que dans les usines, il y a moins de 20% des Français qui travaillent encore dans les usines. Et les autres travaillent dans des administrations, beaucoup d'ailleurs dans les services publics. Et ce qui se passe maintenant, de plus en plus en Belgique en tout cas, c'est que, à cause de certaines relations politiques, par exemple, dans certaines communes, des personnes arrivent à avoir un emploi à la commune grâce à une relation et ont un revenu fort élevé par rapport à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir cette relation pour avoir cet emploi.
Un clientélisme, oui.
Alors qu'avant, on avait des gens qui avaient de l'argent, et il n'y en a pas tellement, et beaucoup qui n'avaient pas beaucoup d'argent, maintenant, on en arrive à une société duale où certaines personnes ont un travail et d'autres personnes n'ont pas de travail.
Mm.
En anglais, on dirait « the have and the have not ». Ceux qui ont du travail, ce sont les nantis aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de travail. Donc, le travail, surtout dans les administrations, les trucs où on peut faire plaisir à quelqu'un, même dans les grosses entreprises, c'est pareil quelquefois, donc des amis qu'on a du travail, qui soudainement ont un revenu grâce au fait qu'ils ont un travail, eh bien, le concept du travail actuel a remplacé, en fait, la dualité sociale d'il y a 200 ans.
Mmh.
Donc, ça, c'est un danger fondamental. Et je crois qu'il faut en revenir à une égalité, principe aussi j'aime bien le principe de l'égalité, mais ça doit s'appliquer à ce niveau-là également. Alors, on peut se poser la question aussi, comment fait-il qu'il y a toujours tant de gens qui croient encore dans ce principe du travail? Parce que depuis un certain temps, c'est comme ça, et ça change pas facilement, et changer l'esprit des gens, c'est simplement difficile. Et puis, voilà.
Oui, ce que j'entends aussi, du coup, c'est effectivement comme l'assiette, c'est-à-dire le périmètre de cotisation aujourd'hui de la sécurité sociale, c'est ceux qui travaillent, ce qu'on appelle les charges salariales, de façon très très mal très très mal appropriée. Donc c'est les cotisations. Donc la sécurité sociale, pour l'instant, elle est payée en partie sur ceux qui travaillent. Et donc sur l'emploi, sur le taux d'emploi. Mais comme on vient de le dire, avec notamment la numérisation ou même notre productivité en France qui explose depuis au moins 30 ans, on devrait pouvoir travailler moins et de façon, alors si possible évidemment avec un revenu de base pour en vivre, etc. Mais du coup, il y a un vrai problème aujourd'hui. En tout cas, tu parles dans tes articles de sang qui circule. L'argent, c'est comme le sang qui circule dans un être vivant, parce que voilà, il n'y a plus suffisamment de gens qui travaillent pour pouvoir faire remonter suffisamment de cotisations pour que la sécurité sociale puisse rembourser suffisamment pour tout le monde, etc. Et donc là, tu proposes un autre levier de financement, une autre assiette, une autre base de financement pour la sécurité sociale, c'est ça?
Au niveau du financement de notre société, il faut se poser la question comment ça fonctionne. Et la plupart des impôts que l'État perçoit, ce sont des taxes sur le travail. Ce sont donc des contributions de la sécurité sociale d'une part, et puis des taxes sur le travail simplement, et c'est typiquement deux tiers de toutes les taxes. D'autres taxes, il y a de la TVA, c'est fort important aussi. Et puis, il y a toutes sortes d'autres taxes, dont les taxes sur des investissements en bourse et des trucs comme ça. Mais bon, en fait, les taxes sur le travail, c'est immense comparé au reste. Et donc, c'est clair que si, à un moment donné, nous voulons évoluer vers un autre système, il faut remplacer les taxes sur le travail par d'autres taxes. Et il faut que ça évolue vers d'autres taxes. Bon, la TVA, c'est bon. Alors, nous avons aussi des taxes, par exemple, sur le pétrole, mais pas beaucoup. Quand on prend de l'essence à la pompe, il y a des taxes aussi sur le pétrole, sur l'électricité d'ailleurs aussi. En principe, ce sont de bonnes taxes, puisqu'en fait, tout le monde paye ces taxes-là. Qu'on travaille ou pas, il faut les payer. Et cela contribue à la totalité des taxes. Et je crois que là aussi, on peut évoluer dans le bon sens, par exemple, en faisant une espèce de tax shift, on change les taxes sur le travail sur l'autre taxe, et l'essentiel sera quand même de remplacer les taxes sur le travail des êtres humains par les taxes sur le travail des robots. Donc les robots qui font des voitures automobiles, qui font d'autres produits, des médicaments, etc. Enfin, des médicaments, ça va encore, parce que c'est très utile et c'est nécessaire. Mais néanmoins, la question de voir comment on peut remplacer le travail des êtres humains sur une taxe sur les robots, c'est pas une évidence, évidemment, parce que les robots, eux, ils ne payent pas de taxes. Alors, ils peuvent pas, parce que c'est pas le système. Mais on peut, par contre, lever des taxes sur les produits fabriqués par des robots. Mmh. Par exemple, des voitures automobiles, des jouets, des meubles, etc. Donc, à mon sens, pour remplacer les taxes sur le travail des êtres humains, il faudra aller vers un autre système où on taxe beaucoup plus les produits fabriqués par des robots. Mais non, je parle de produits parce que ça, c'est tangible. Quand on parle de services qui sont prestés par des robots, par exemple, si des médecins sont remplacés en partie par des robots, là, c'est un peu compliqué de payer les robots. ça ne va pas marcher, donc. Mais c'est clair qu'il faut réinventer le système des taxes dans tous les pays du monde, quasiment, à cause du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de taxes sur le travail.
Mais du coup, ce que j'entends, c'est que tu évites le piège, parce que c'est vrai que la TVA, donc c'est une taxe sur la consommation, et en même temps, c'est une taxe qui est très très utilisée en France, et en même temps, c'est une des taxes les moins égalitaires, puisque justement la personne la plus pauvre entre guillemets va payer le même taux que la personne la plus riche dans la société, parce que elle est obligée un peu de consommer pour vivre, et par contre elle a beaucoup moins de revenus pour assurer et pour vivre et la part de taxes. Donc ce que j'entends, c'est que ta vision de cette taxe sur les produits, finalement, elle rééquilibre, elle évite ce piège-là, parce que il y a certains produits qui seraient plus taxés que d'autres, eu égard à leur mode de fabrication, c'est ça ?
Oui, mais je crois aussi que le problème qui, par rapport aux gens qui n'ont pas suffisamment de revenus, bon, aujourd'hui, beaucoup de politiques maintenant se disent ok, ils ont moins de revenus, donc quand ils mettent leurs enfants à l'école, ça doit être moins cher, quand ils prennent le bus, ça doit être moins cher, au train, ça doit être moins cher. Finalement, c'est une usurpation de la valeur de l'euro. Hein. Pour certains Français, l'euro vaut moins finalement que pour d'autres Français qui peuvent acheter plus avec le même euro que des gens qui ne sont pas des cas sociaux. Et donc, ça, c'est pas, à mon avis, un bon système. Il vaut mieux donner un revenu de base à tout le monde. Et voilà, ça c'est égalitaire.
Mmh. Du coup, effectivement, il y a une base égalitaire et après, une base équitable, comme tu disais, par exemple, ceux qui ont besoin de plus de soins, etc., ils auraient un complément pour sécuriser aussi, sécuriser ce soin. Et ce que je voudrais, parce que là, il nous reste quelques minutes, je voudrais pouvoir développer aussi le sujet des droits, parce que tu m'avais dit que il y aurait du coup une différence entre la taxation, il y aurait quand même une taxation sur le travail, mais pas notamment sur les services publics ou tout ce qui est en subsidié là-dessus. Est-ce que tu peux préciser?
Je crois que les taxes, c'est un élément qui, de toute façon, au niveau de l'évolution, peut encore fortement évoluer. L'essence, en fait, de l'avenir du monde, c'est que, aussi fou que ça puisse paraître, c'est que dans le monde dans 50 ans, il n'y aura plus d'obligation d'aller travailler pour survivre. Parce que les robots vont fabriquer quasiment tout. Quand on voit par exemple l'agriculture au début du 19e siècle, il y avait à peu près 70% de la population, excusez-moi pour mon appréciation belge des chiffres, mais donc 70% de la population travaillait en fait comme agriculteur. Hein. Mm-hmm. Et aujourd'hui, en France, c'est encore 3%, en Belgique, c'est 1%. Donc, quasiment plus personne travaille dans l'agriculture. Pourtant, dans les grands magasins, il y a plein de légumes, plein de tout, quoi. Et pourquoi? Parce que ça a été automatisé largement au niveau de l'agriculture. Hein. Alors, après, lorsque le nombre d'agriculteurs a fortement baissé au fil des années, maintenant, donc c'est quasiment plus personne. La même chose s'est passée avec les usines. Alors, la question se pose finalement, où vont maintenant travailler les gens? Justement, beaucoup dans l'administration. Et ça, ce n'est pas tellement efficace, ce serait mieux. Parce que là aussi, ça va. Et les soins aussi d'ailleurs, hein, les soins, mais ça va être rationalisé. Il y aura beaucoup plus de robots qui vont s'occuper des soins qu'avant. Et donc, le travail comme concept essentiel dans la société va disparaître. Le travail va devenir un choix plus qu'une obligation. Mmh. Et donc, en fonction de cela, il faudra repenser l'organisation du monde. Mais en fait, c'est un peu stupide qu'on soit toujours dans ce genre de pensée qu'il faut travailler pour survivre et que ceux qui travaillent pas, ce sont des mauvais et les autres sont des bons. Non, parce qu'on sait déjà aujourd'hui que dans 100 ans, de toute façon, mais même déjà dans 50 ans, les robots vont faire quasiment tout ce que les êtres humains doivent faire maintenant. Par contre, de s'occuper de certaines choses en tant qu'être humain, par exemple, enseigner, aider, élever des enfants, faire du sport et tout ça, ça
me plaît,
c'est une bonne chose, hein. Et alors, en fait, ce sera, ça, c'est l'avenir du monde, c'est de, que, bon, l'être humain sera libéré du devoir d'aller travailler. Et c'est pour ça qu'il faut reconcevoir tout le fonctionnement de la société.
Je rajouterais aussi, parce que on a eu déjà des échanges dans des précédentes émissions sur le fait que la révolution écologique va nécessiter sans doute plus de travail humain pour pouvoir être au plus près d'une agroécologie qui soit adaptée au rythme des saisons, etc., ou peut-être moins intrusive que certaines machines, ou aussi une sorte de restriction en termes de métaux, etc., parce que la Terre ne peut pas tout donner autant qu'une croissance infinie en termes de ressources. Mais même en prenant tout ça en compte, on n'arrive pas, comme tu le disais, au pourcentage d'agriculteurs nécessaires comme il y a 100 ans, etc. Et donc, que le revenu de base soit un levier et d'égalité, de sécurité, de survie et de liberté, et donc de fraternité, puisque la version que tu défends remet une forme de fraternité avec de l'équité aussi pour ceux qui en auraient plus besoin. Ça permet d'envisager de ressortir de ce conditionnement du travail salarié comme unique richesse d'une société. Parce que comme tu nous l'as bien dit, c'est pas si vieux en fait. On a du mal parce qu'on est en plein dedans à voir que ça a pu être autrement et que ça pourrait être autrement. Mais voilà, en tout cas, un revenu de base est un levier pour redécouvrir autre chose ou inventer autre chose tout en gardant, et là il faudra qu'on soit les gardiens de ça c'est sûr, les valeurs comme tu disais de liberté, d'égalité, fraternité comme levier de changement, pour être sûr que ce soit pas au profit d'une nouvelle élite ou d'un autre type de discrimination. Donc à partir de ce constat-là, est-ce que, pour arriver à la dernière partie de notre émission, quel premier petit pas, le plus petit pas possible, tu verrais, parce qu'on pourrait rêver d'un revenu de base au niveau européen, allez, on claque les doigts et puis on arrive à une forme de paix sociale et de libération des peuples, etc. Mais voilà, pour être réaliste et réalisable, quel serait le premier petit pas possible, à ton avis ?
Eh bien, je pense qu'en Europe, on pourrait faire à un moment donné ce qui a été fait aux États-Unis lors du Covid. Mm-hmm. Pendant cette époque-là, il y a un problème parce qu'aux États-Unis aussi, on demandait aux gens de rester à la maison, ils pouvaient plus aller au travail, il y avait un gros problème aussi de revenus, surtout là-bas, parce que c'était pas automatique des revenus. Oui. Et aux États-Unis, on a distribué quasiment, en fait, un revenu de base à tout le monde pendant pas mal de temps, pendant quasiment 2 ans. Et cela a vraiment eu l'effet de garder l'économie dans une situation de plus que la survie. Les gens étaient contents, il n'y a pas eu de problèmes sociaux ou quoi que ce soit. Parce qu'on a distribué une espèce de revenu de base pendant 1 an et demi, il y a 2 ans, aux États-Unis. Mmh. Donc ça, c'est remarquable qu'un pays qui est quand même connu comme un pays capitaliste l'ait fait pendant un certain temps, et ça a fortement bien marché. Et donc, je crois que c'est un excellent exemple que l'on pourrait... copier en Europe, par exemple, imaginons qu'en France ou en Belgique ou ailleurs, qu'il y a des complications au niveau économique pendant un certain temps à cause d'un effort de guerre, qui n'est pas pensable aujourd'hui, mais imaginons, à ce moment-là, je pense que le gouvernement français pourrait décider, et puis le gouvernement belge en Belgique, pourrait décider de distribuer pendant le temps qu'il faut, par exemple, à toutes les personnes en France, par mois, 200 euros de plus pour pouvoir quand même aller acheter ce qu'il faut acheter parce qu'ils ne peuvent plus aller au travail ou il y a d'autres problèmes, etc. Ce serait une distribution comme on a fait aux États-Unis pendant des périodes de crise qui finalement, ça revient à quoi ? Ça revient un peu au niveau macroéconomique donc pour la France, à une situation comme on a connue au Covid de toute façon, parce que là, on a demandé aux gens de ne pas aller au travail, mais on a quand même continué à les payer. Donc, en large mesure, pas pour tout le monde, mais beaucoup. Et donc là, on dirait que dans un cas de crise économique, on peut alimenter la demande des consommateurs en distribuant exceptionnellement un revenu additionnel. Donc ça, c'est un exemple qu'on pourrait lancer dans des situations où cela pourrait être utile au niveau du relancement économique. Si, par exemple, il y a une récession, que l'économie ne marche plus très bien, ben, maintenant, ce que l'on fait typiquement, c'est d'essayer de diminuer le taux d'intérêt en pensant que les gens vont quand même emprunter plus quand le taux d'intérêt est moindre. Je crois qu'une injection de pouvoir d'achat, ça marche mieux que de baisser les taux d'intérêt en espérant que les gens vont alors quand même s'endetter pour aller consommer plus. Donc ça peut être un outil de gestion économique additionnel à ce qui existe déjà.
Alors, si je me trompe pas, ça rejoint aussi une proposition de loi que vous avez proposée en 2008 déjà par le Parti Vivant.
Oui.
Il me semble, hein, c'était... Une injection de 100 euros.
Effectivement, on avait fait une telle proposition de loi qui stipulait justement c'est une chose qu'on devrait faire en cas de problème économique. Et en fait, les Américains donc, l'ont fait au moment du Covid. En Belgique, ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, ça n'a jamais. C'était une proposition de loi, mais bon, aussi bien la gauche que la droite est contre. Personne n'a rien fait, donc ça n'a pas été accepté.
Pas encore. On y croit. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire à peu près, là, en Belgique aujourd'hui, où en est l'idée ? Est-ce qu'il n'y a que Vivant qui le porte ou...
Il se trouve qu'en fait, le président du Parti libéral francophone, parce que maintenant en Belgique, on a des partis suivant les cas de... Ils sont typiquement séparés selon le rôle linguistique, sauf quelques-uns. Enfin, en tout cas, le président du Parti libéral francophone, lui, il est partisan d'un revenu de base depuis pas mal de temps, mais son parti ne l'est pas.
Ah, zut.
Oui, voilà. Donc, mais bon, espérons que tout plus tard, ils vont quand même suivre, hein, donc on verra bien.
Bon, écoutons.
Les autres partis politiques, les Verts, de temps en temps, ils sont pour, mais de temps en temps, ils ne sont pas tout à fait convaincus. Les socialistes en Belgique sont typiquement contre.
Ah.
Pourquoi ? Parce que ça attaque un peu le pouvoir des syndicats.
Oui, donc là, il faudrait qu'ils évoluent pour s'adapter aux évolutions du monde du travail, en fait, finalement.
Oui.
Et alors, est-ce que l'idée d'une expérimentation, ce serait imaginable, puisque il nous reste une minute
pour... Il y en a beaucoup dans le monde. Hein,
mais oui, et même à Lille, pour les prochaines municipales, il y a une liste qui va porter une idée d'expérimentation. Donc, on a une minute pour nous faire rêver. Est-ce qu'une expérimentation en Belgique serait imaginable ? Tu voudrais pas jouer les mécènes d'une expérimentation en Belgique ? En tout cas, n'hésite pas à nous rappeler si c'est le cas, parce que là, on peut refaire une émission.
Non, c'est impossible, parce que les dépenses, en fait, aujourd'hui, d'un État, c'est une immense. Hein, donc personne ne peut financer. Parce qu'en Belgique aussi, de temps en temps, on parle des taxes sur les riches, etc. Et quand on fait le calcul, si on prend les 500 plus grosses fortunes en Belgique, et si on nationalise leur propriété, hein, donc ça veut dire que beaucoup d'entreprises belges ne seraient plus belges parce que il faudrait les vendre aux États-Unis ou à d'autres gens, quelque part dans les pays arabes. Mais à ce moment-là, ça permet de financer les dépenses de l'État pendant 8 mois.
D'accord.
Donc pas pendant 20 ans, pendant 8 mois. Et puis il n'y a plus de riches belges, quoi.
Voilà. Bon, en tout cas, encore un grand merci, Roland, pour ce témoignage. Je renvoie nos auditeurs et auditrices vers les articles que tu as écrits et qui sont accessibles sur le site de Basic Income Earth Network. Vous tapez Roland Duchâtelet et vous pouvez les avoir en anglais. Merci beaucoup, Roland. À très bientôt.
Salut, à plus.